Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Nous partons ce matin à la découverte d'un prêtre de Bagnères-de-Luchon parti évangéliser en Éthiopie. Il s'agit du père Pascal. Et cet hiver, deux membres du diocèse de Toulouse sont partis sur cette trace, récit de voyage. Le père Pascal, capucin de Bagnères-de-Luchon, est parti comme missionnaire en Éthiopie en 1925. C'était pas hier, évidemment. Et c'est sur ces traces que les deux invités de Vivante Église ont effectué un pèlerinage du 7 au 11 novembre dernier. Bonjour Barbara de Miguel.
Bonjour Isabelle.
Vous êtes de la paroisse de Luchon.
Oui.
Et par un concours providentiel, vous avez été associé au pèlerinage organisé par le père Dominique Sauvigné, capucin à Lyon.
Tout à fait.
Et vous étiez accompagné par le père Hervé Guignard, ici présent.
Bonjour.
Bonjour père, vicaire général du diocèse de Toulouse. Merci de vous rendre ainsi disponibles tous deux pour nous conter ce beau pèlerinage et nous faire découvrir aussi la figure du père Pascal. Comment l'un et l'autre avez-vous été conduits à partir ainsi en Éthiopie ? Barbara ?
C'est le hasard, me semble-t-il, mais la providence, je préfère dire. J'étais en quête de sens dans ma vie l'été dernier et j'ai reçu un appel. Venez nous rejoindre, on a quelque chose à te proposer. C'était l'équipe qui travaillait sur le dossier de Père Pascal Duchon pour mieux le découvrir parce que la paroisse ne le connaissait pas vraiment. Très peu de personnes avaient entendu parler de lui. Et moi non plus, un petit peu quand même parce qu'ils avaient déjà fait du travail. Donc je suis venue à la réunion, on me dit « Est-ce que tu veux partir en Éthiopie ?» J'ai dit, Éthiopie, pourquoi Éthiopie? Donc j'ai découvert plus
sur la mission du Père Pascal.
La mission de Père Pascal et ma mission, si j'acceptais, d'écouter et puis d'observer et transmettre à la paroisse beaucoup de choses sur la vie en Éthiopie et surtout le travail du Père Pascal à travers ce voyage où on a découvert tous.
Et alors, non seulement vous avez transmis à votre paroisse de Luchon, mais là, grâce à Radio Présence, vous allez transmettre beaucoup plus largement. Père Hervé, qu'est-ce qui vous a amené jusqu'en Éthiopie ?
Alors, c'est un concours de circonstances, je dirais, malheureuses, heureuses, parce que donc au point de départ, c'était donc le curé de la paroisse, le père Arnaud Richard, qui devait partir en Éthiopie et qui a eu un accident de santé assez sérieux. Donc l'été dernier, et donc la perspective d'un voyage s'est avérée impossible. Et du coup, voilà, par différentes circonstances, l'appel de son vicaire paroissial, le père Jacques Chérubin, donc il disait « je veux bien y aller, mais pas tout seul ». Alors je dis « je viens avec toi », et puis finalement le père Jacques n'a pas pu venir, et du coup c'est moi qui suis allé.
Vous connaissiez le père Pascal avant de partir ?
Absolument enfin, pas.
Avant qu'on vous propose, en tout cas.
J'en avais un peu entendu parler de la part du père Richard, qui m'avait prévenu de ce projet de voyage il y avait plus d'un an. Mais après, je n'en avais plus entendu parler. Et donc, je l'ai vraiment découvert.
En tout cas, nous allons découvrir ce prêtre et missionnaire pendant cette émission. Tu serais un excellent missionnaire. Ça ne te plairait pas de venir avec moi en Afrique. C'est par ces mots que ce jeune garçon de Bagnères-de-Luchon, il s'appelait Louis Lombard, et c'est comme cela qu'il a reçu son premier appel. Qui le lui a adressé et comment cet appel a grandi dans son cœur?
Alors, c'est encore un mystère. Je suis en train de feuilleter la semaine catholique de Toulouse de 1888. Ouf. Pour essayer de retrouver, en espérant retrouver un petit article sur la mission des Capucins qui aurait eu lieu à Luchon à cette époque-là, pour savoir qui donc a interpellé ce jeune garçon de 14 ans.
Oui, il était enfant de cœur et c'est quand même étonnant. Hein.
Et il s'était déjà signalé, si j'ai bien compris, dans sa biographie par... D'abord sa foi, sa vie de prière et son intelligence, puisqu'il était déjà remarqué comme étant un très bon élève dans l'école privée où il était, l'école religieuse, l'école des frères des écoles chrétiennes qui se trouvaient à l'époque à Luchon ou à côté, il faudrait bien regarder.
Et il avait une grande disposition pour apprendre les langues et ça va lui rendre un grand service en Afrique.
Manifestement une grande intelligence. Une grande facilité à apprendre les langues, à organiser, à, voilà, un sens de l'organisation pratique, voilà, et puis un zèle apostolique extraordinaire.
Oui, parce que cet appel missionnaire, donc il l'a reçu à ce moment-là, et puis il le reçoit une deuxième fois quand il est de passage au couvent capucin de Carcassonne. Oui. Et là, c'est encore un appel à devenir missionnaire en Afrique. Donc là, c'est encore plus précis. Et comment le père Pascal reçoit-il ces différents appels?
Il les reçoit à lire son récit. Il les reçoit très simplement, je dirais, et très généreusement. C'est-à-dire que d'emblée, il a été marqué par ce premier appel, tout peu jeune, donc à devenir missionnaire. Et ça sera quelque chose de définitif dans sa vie, finalement. Hein, une perspective constante avec quelques aléas dans les ministères accomplis, les types de ministères, puisqu'il n'a pas été de suite missionnaire sur le terrain, si on peut dire, parce que en raison de ses capacités intellectuelles, notamment, on avait d'abord souhaité lui confier d'autres responsabilités qui faisaient qu'il n'était pas directement sur le terrain de l'évangélisation.
Et dans ses responsabilités, il lui a été confié effectivement la direction d'un séminaire.
À peine arrivé en Éthiopie, donc ouais. On lui a confié parce que le responsable était malade ou indisponible. Donc très vite, on lui demande d'assurer la formation au séminaire. Et très vite, on lui demande d'être vicaire apostolique à Djibouti, donc un tout petit territoire français à l'époque. Mais avec le rang de vicaire apostolique, c'est quasi comme un évêque, hein, si vous voulez. Mais finalement, dans un territoire où il fallait, enfin, dans ce qu'on lit, ce qu'on comprend, c'est qu'il y avait une présence religieuse en ce lieu. C'était un territoire français. Et en même temps, du point de vue de ses rêves d'évangélisateur, c'était un peu décevant, parce que c'était un tout petit territoire, quasiment désert, et avec une population musulmane très très présente, et donc de réelles difficultés à pouvoir annoncer l'évangile.
Et pourtant, dans sa biographie, il est dit que cette charge de direction du séminaire lui laissait quand même beaucoup de temps pour l'évangélisation.
Oui, il prenait du temps pour aller rencontrer des chrétiens ou des futurs chrétiens. En tout cas, il a déployé d'emblée, dès qu'il avait un peu de temps, on a l'impression que dès qu'il avait du temps, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait de l'apostolat.
Ouais. On sent vraiment ce zèle missionnaire en lui. Oui. Il s'y lança corps et âme et il disait « Je m'étais consacré de tout mon cœur à l'évangélisation du peuple Gala et mon désir le plus ardent était de me consacrer jusqu'à la mort au salut de ce peuple. » Donc là, il y a vraiment un grand zèle missionnaire. Si je reviens sur ce deuxième appel à la mission, le capucin qui lui a demandé, lui a dit « Je t'emmène avec moi en Abyssinie, viens, l'évêque a besoin de missionnaires jeunes et courageux comme toi. » Donc là, évidemment, oui. Il ne pouvait pas mieux tomber. Alors, si on revient sur son enfance et son adolescence, elles se sont déroulées entre les Pyrénées et puis l'école capucine séraphique d'Igalagda, en Espagne, en passant par Perpignan. Est-ce que vous avez un petit peu une idée, peut-être Barbara, du garçon qu'il était pendant ses années de formation?
Apparemment, il avait un côté un peu espiègle.
Ah.
Oui, et les autres se moquaient de lui à Igualada, je crois que c'est la prononciation. Se moquaient de lui par ses différences, par son aspect physique aussi. Il était tout petit, assez petit. Et tout de suite, il a pu tourner en humour et s'intégrer assez rapidement et se démarquer aussi par son intelligence. Parce qu'il est très vite devenu, je crois, premier de la classe. Mmh. Mais avec beaucoup d'humour et facilité à s'intégrer, malgré ses différences.
Oui, il ne s'est pas laissé décourager, en tout cas, par des remarques qui auraient pu être moqueuses.
Exactement.
Non, il a très vite pris sa place et puis il a été très vite repéré aussi par les religieux, visiblement. Donc il a été suivi de près, je dirais. Après, il y a deux choses qui sont marquantes dans le contexte historique d'abord où il est, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que donc au moment où il reçoit cet appel à devenir capucin, devenir missionnaire, donc... D'abord, il rentre à 14 ans au petit séminaire, il quitte Luchon et il va partir dans la région de Barcelone. Et donc, ça nous paraît...
C'est jeune, hein. Aujourd'hui,
c'est
ça
jeune,
nous paraît très
ça
jeune.
Ça nous paraît jeune, ça nous paraît osé, mais qu'ont pensé les parents comment ont-ils pu envisager que c'était possible? Parce que dans la biographie, on a l'impression en plus que ça se fait en quelques jours,
ah
tout
oui,
ça.
Oui, oui.
Ça se décide en quelques jours. Et donc, on m'a expliqué, mais tu sais, dans ces années-là, dans ce siècle-là, dès qu'on avait un enfant, dès qu'il y avait des perspectives de pouvoir placer un enfant, que sa vocation était faite, que son métier était vu, qu'il y avait des dispositions, on se posait pas de questions. Et les jeunes étaient placés très vite dans leur métier ou dans leur profession.
Oui, voilà. C'est vrai.
Et donc, c'était tout à fait banal, finalement, de partir jeune de la maison. Mmh. Et le deuxième point important de comprendre aussi, c'est que nous sommes dans une époque où, en France, les congrégations religieuses sont expulsées de France. Donc, il n'y a plus de congrégations enseignantes religieuses en France à cette époque-là.
C'est pour ça qu'il part à Barcelone.
Et donc, toutes les congrégations ont migré vers les pays frontières, donc en Belgique, en Angleterre, en Espagne. Et c'est pour cela que toutes les écoles, le petit séminaire, le noviciat et le grand séminaire, des capucins de la province de Toulouse, eh bien, se trouvent à l'étranger, en Espagne et au Canada. Et donc, et à cette époque-là, le seul capucin qui demeure à Toulouse, c'est le père Antoine-Marie de Lavore, qui réside donc au couvent qui garde le couvent et reste seul dans ce couvent à cette époque-là.
Et d'ailleurs, à propos du père Marie-Antoine de Lavore, nous verrons que le père Marie-Antoine a transmis à Abba Pascal, au père Pascal, cette dévotion pour Notre-Dame de Lourdes. On le verra dans la deuxième partie de cette émission. Alors, le père Pascal a été ordonné prêtre le 28 octobre 1900. Il rejoint le Canada, puisque vous le disiez, père Hervé, il y avait donc une maison des Capucins, un couvent des Capucins au Canada. Donc, il se forme à la vie missionnaire. Il revient en France. Il part à Djibouti, nous en avons parlé. Et puis, il espère à chaque fois arriver en Éthiopie. Mais finalement, ce n'est pas le cas. Comment vit-il ces déconvenues?
Il le vit dans un grand sens de l'obéissance à l'Église. Hein, je suis frappé par ça, par quelques propos dans ses lettres où il fait confiance en Dieu, il fait confiance à la Providence et que, bon, elle connaît ses desseins et que la volonté du Seigneur se fera. Donc, vraiment, ce qui est... Voilà, il attend. Il attend cet envoi et il fait confiance. C'est tout à fait remarquable,
ouais,
je dirais.
Une belle disposition.
Dans ses lettres,
hein,
une belle disposition, tout à fait.
Oui. Ouais. Et puis donc, il va quand même partir à la guerre, puisque c'est la Première Guerre mondiale.
Oui.
Et donc là, après...
Il ne reste qu'un an. Voilà, il retourne sur le territoire français, mais il retourne à Djibouti en 1915. Alors, on ne connaît pas bien les détails de cette vie. Donc, on ne connaît pas les motifs pourquoi, au bout d'un an, finalement, il retourne à Djibouti.
Il n'a pas fait toute la guerre, en tout
voilà,
cas.
Loin de là.
Loin de là. Peut-être, avant de marquer une pause, je voudrais qu'on précise quand même ce pays de l'Éthiopie. Hein, 50% de sa population est chrétienne. C'est quand même le premier pays chrétien d'Orient de par son histoire et la tradition biblique. Est-ce que l'un ou l'autre, vous pourriez un petit peu nous mettre en appétit sur ce pays et sur ses racines chrétiennes? Ah oui, c'est
Barbara,
encore à vous.
Elle me fait signe, mais je suis sûr qu'elle peut dire beaucoup de choses. Donc oui, c'est le deuxième État à s'être converti au christianisme après l'Arménie. Donc c'est un pays chrétien, anciennement, pour une partie de sa population. Parce que l'Éthiopie, il faut se souvenir que l'Éthiopie, pendant très longtemps, était un empire, donc était gouvernée par une dynastie d'empereurs qui gouvernaient donc sur une multitude de peuples, d'ethnies, avec des cultures et des langages différents. Donc une grande partie était en effet convertie à l'orthodoxie. Mais ce n'était pas le cas pour tous, notamment en Éthiopie du Sud. Alors c'est un vaste pays. L'Éthiopie, c'est deux fois la France, 110 millions d'habitants. Donc c'est la même densité, en fait, en termes de population. Un pays fait par endroits de désert, mais surtout de hauts plateaux, de montagnes, qui son passant rappelait les montagnes des Pyrénées.
Et oui, c'est pour ça qu'il s'y sentait bien.
Tout à fait.
Le père Pascal.
Et donc, une population jeune, plus de la moitié des... Presque la moitié de la population est en âge d'être à l'école. Donc, une population jeune, colorée avec les vêtements, les habits,
c'est
du rouge, c'est du
chamarré,
vert, c'est du jaune,
oui.
c'est de l'orange, c'est beaucoup de couleurs. Et donc, une population religieuse donc pour 50%, une population orthodoxe qui se manifeste par de grandes églises, de très grandes églises de type orthodoxe. Alors, on dit orthodoxe. C'est une église, alors qu'avant, il y a très longtemps, on parlait des Coptes d'Éthiopie, mais ils n'aiment pas ce nom-là parce que les Coptes d'Éthiopie, ça les rattachait donc aux Coptes d'Égypte et au patriarcat d'Égypte. Donc en fait, l'église d'Éthiopie, l'église orthodoxe d'Éthiopie, pendant très longtemps, dépendait du patriarcat copte d'Alexandrie et elle est devenue indépendante, autocéphale en 1959, donc c'est assez récent. Et donc, elle se désigne maintenant comme étant l'église orthodoxe d'Éthiopie. Et donc plus de 50% de la population, mais c'est une population, c'est plus on monte vers le nord, c'est-à-dire plus on se rapproche de l'Égypte, plus c'est orthodoxe et plus on descend, et plus il y a une diversité religieuse, voire une population qui en majorité donc est de religion, pratique les religions traditionnelles d'Afrique, voilà, oui. Animiste, donc plutôt animiste, voilà. Et un tiers de la population est musulmane, voilà. Et dans certains villages, on a remarqué la concurrence entre la grande église orthodoxe et la grande mosquée. Et après, il y a aussi des églises évangéliques protestantes qui sont présentes sur le terrain depuis longtemps, depuis l'époque du père Abba Pascal, puisqu'il évoque aussi les missions protestantes dans ses lettres. Et il y a les missions catholiques. Et donc, les catholiques représentent 1% de la population. Donc, c'est vraiment une toute petite église et qui est concentrée sur le lieu où le père Pascal a évangélisé.
Oui, et on voit bien que c'est un pays dans lequel la foi est imprégnée, puisque quand vous répondez à la question « comment ça va ?», les gens disent « bien par la grâce du Seigneur ». Alors, si je vous le dis en éthiopien, ça fait « Dena Xabiere Imusken ». Vous avez utilisé cette formule ?
Non, on a très peu parlé en éthiopien. Barbara a beaucoup parlé.
Signalons que l'Éthiopie, malheureusement, renoue avec la guerre. Et c'est vrai que depuis 10 jours, des affrontements opposent les combattants des régions du Tigré et de l'Amara. Ça a provoqué quand même le déplacement de 50 000 personnes. C'était ce qu'annonçait l'ONU le 23 avril. Et des combats qui ont lieu dans la zone de Raya, contestée par les deux régions, donc justement du Tigré et de l'Amara. Oui. Je vous propose de marquer une petite pause musicale. Nous allons évidemment écouter un Alléluia, puisque nous sommes dans ce temps pascal. Je vous propose de l'écouter interprété par le chœur éthiopien Eman.
Vivante Église, Isabelle Duché.
C'était le chœur éthiopien Eman qui interprétait Alléluia. Nous sommes en compagnie de Barbara de Miguel et du père Hervé Guignard. Avec le père Dominique Souvignier Capucin, vous êtes parti en Éthiopie pour suivre les traces d'Abba Pascal, un prêtre missionnaire issu de Bagnères de Luchon. Nous parlions juste avant notre pause musicale de cette diversité religieuse en Éthiopie par laquelle cohabitent catholiques, orthodoxes, musulmans. Barbara de Miguel, vous vouliez nous donner une anecdote sur cette diversité?
Oui, de tous les bon, pas tous les matins, mais surtout à Sodo, qui était une ville assez grande, tous les matins, entre 4h et 5h du matin, nous avons entendu, avec les haut-parleurs, les musulmanes et les orthodoxes qui commençaient à, je ne sais pas si on dit, publier des psalmodies et des prières à vraiment un volume très fort, donc impossible de se rendormir, même qu'on n'était pas pile à côté, on est peut-être pas loin d'un kilomètre de certains de ces haut-parleurs, et puis on les entendait d'un côté d'autre, donc on ne pouvait rien comprendre.
Vous aviez la
stéréo. C'est ça. C'est ça.
Et puis, il y avait quand même votre propre appel à la prière pour la prière des lots tous les matins.
Oui, avec les frères Capucins, parce qu'on était tout le temps dans les missions différentes. Tous les jours, on bougeait, même si certains jours, on revenait à la même mission, principalement à Sodo. Et donc, nous avons commencé vers 6h du matin ou 7h au plus tard, les lodes, parfois la messe et puis le petit déjeuner, et parfois le petit déjeuner et la messe après.
Donc, vous avez vraiment parcouru un certain nombre de missions qui avaient été fondées par le Père Pascal. Donc, à partir du 7 novembre et jusqu'au 15, vous êtes passé par Sodo, Lala, Vassera, Mdébir, donc toutes ces missions qui ont été fondées par le Père Pascal. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans ces missions? Parce qu'elles existent encore.
Elles existent encore, tout à fait.
Barbara, qu'est-ce que vous y avez trouvé?
Qu'est-ce que nous avons trouvé de belles choses? Nous avons trouvé donc une communauté capucine avec les frères. Nous avons découvert des religieuses qui s'occupent et des œuvres de charité, des dispensaires, des orphelinats, et des frères et des sœurs qui s'occupent des écoles, de la maternelle jusqu'au lycée, à Sodo jusqu'au lycée, de grandes écoles à Sodo, et de petites écoles ailleurs, Dubo et c'était grand aussi, oui. Et donc nous avons découvert toutes ces communautés religieuses qui travaillent avec les Capucins et des élèves. Nous sommes allés à la rencontre des enseignants et des élèves, et dans les classes, et dehors à la récré, et aussi dans les ateliers, parce qu'il y avait une école...
À Dubo, une école technique.
Technique, voilà.
Après le lycée.
Il y a quand même 2200 élèves dans cette école de Dubo,
oui.
Hein, c'est,
oui.
C'est énorme.
Oui.
Et alors, à l'époque du Père Pascal, c'était des écoles qui étaient destinées aux garçons, et maintenant, il y a des garçons et des filles qui bénéficient,
oui,
de l'éducation.
En fait, au départ, ce qu'il faut savoir, c'est que les missions donc, avec le Père Pascal, avec les Capucins, donc, ont perçu une opportunité d'évangéliser à partir de cette question de l'instruction des jeunes dans ce pays. Et en commençant d'ailleurs par les enfants des notables de l'élite de ces pays, c'est-à-dire que l'Éthiopie comme empire se pensait comme un empire qui pouvait s'aligner en quelque sorte sur les empires occidentaux et les gouvernements que l'on appelait à l'époque des Lumières les gouvernements éclairés, et donc qui favorisaient et développaient l'instruction dans l'esprit de la philosophie des Lumières d'ailleurs. Et donc dans cette perspective-là, beaucoup une part des notables de l'élite éthiopienne, de gouverneurs, de chefs militaires, donc cherchaient à faire en sorte que leurs enfants soient éduqués à l'occidental. Et donc rechercher des percepteurs. Et donc le Père Pascal est rentré en mission dans le Walamo, comme on l'appelait à l'époque, par le biais d'une demande d'un gouverneur qui recherchait un percepteur pour ses enfants. Et c'est comme ça qu'il rentre en Wallano pour commencer à évangéliser. Alors, il ne se présente pas comme prêtre, hein, mais comme enseignant.
Oui,
comme,
il y a des moments de sa biographie,
enseignant.
Il montre qu'il se cache d'ailleurs.
Voilà, il se cache. Donc, il devient percepteur, il rassemble des enfants autour de lui pour fonder une première école. Et très vite, on découvre qu'il est prêtre, en fait, qu'il est prêtre catholique. Bon, il est européen, il est prêtre catholique. Et donc, comme dans les épîtres de Paul, c'est l'épouse du gouverneur qui est très favorable, finalement, à cette présence chrétienne et qui soutient le père. Et il ouvre une école qui grandit. À travers là, il commence à faire la catéchèse et par là, il touche les familles et des conversions se mettent en place, des familles se convertissent au christianisme, il forme des catéchistes et même très vite, il imagine, bon, il a c'est, on est frappé par le dynamisme de ses missions parce que très très vite, il y a la fécondité d'abord de ses missions et puis très vite, on forme des catéchistes et puis très vite, on pense aux vocations religieuses, aux vocations sacerdotales et aux clergés qui pourraient s'implanter. Enfin voilà, c'est assez extraordinaire.
Et puis, il n'y a pas seulement les enfants des familles de notables, comme vous le disiez, puisqu'il y a aussi beaucoup d'ouvriers qui demandent aussi le baptême. Petit à petit, ça...
Tout à fait,
ça infuse.
Ça infuse et ça grandit très vite. En quelques années, à Dubo, donc il implante la première école à Dubo, la première mission. Et en quelques années, il raconte qu'à la veillée pascale, pas la veillée pascale, parce qu'il n'y a pas de veillée pascale à cette époque, mais aux fêtes de Pâques, donc il peut rassembler plus de 400 fidèles dans son église. Il a la joie de voir 400 fidèles.
Et pourtant, ce n'est pas forcément évident, parce que quand Abba Pascal arrive, s'installe définitivement à Dubo, nous sommes le 13 juin 1933, il rencontre quand même un certain nombre de difficultés. Il y a encore l'esclavage qui est très répandu dans cette région,
oui,
le culte satanique, la polygamie. Comment s'y prend-il pour essayer de convaincre d'abandonner ces pratiques?
Alors, je crois qu'il s'y prend très simplement. Hein. Il enseigne la foi. Et l'évangile opère une forme d'attrait, de séduction. Après, quant à la réforme des mœurs, enfin, il voit bien il le dit aussi dans certains passages qu'il y a un peu comme dans la parabole du semeur, c'est-à-dire qu'on sème, l'herbe, le blé pousse très très vite, et comme il n'y a pas de racines, ça peut partir très très vite, quoi. Ça peut disparaître très très vite, et c'est un peu le cas quand même là aussi. Il constate que des fois, face à des difficultés, les gens ne sont pas encore très enracinés dans la foi, donc c'est quand même un travail de longue haleine. Qui se met
oui,
en place.
Il faut affermir, c'est comme avec les catéchumènes.
mais c'est vrai qu'en quelques années, par exemple, dans sa lettre, il évoque le premier mariage qu'il célèbre. C'est assez extraordinaire. Mais d'après les lettres, si je comprends bien, il mise beaucoup sur les jeunes, sur les enfants, sur les jeunes, qu'il catéchise et qu'il éduque, on va dire, à la foi chrétienne. Et donc, selon la foi chrétienne et les principes de la foi chrétienne, et il s'appuie sur ça d'abord, c'est-à-dire qu'il a une visée à moyen terme. Les premiers chrétiens ce seront ces jeunes à qui il enseigne la foi,
et ces jeunes vont parler de la foi à leurs parents, et puis petit à petit ça va faire un effet boule de neige. Barbara de Miguel, quand vous avez visité ces différentes missions, est-ce que vous avez senti la présence du Père Pascal? Est-ce que ces jeunes aussi vous en ont parlé?
Tout à fait. Père Pascal, pour beaucoup de personnes que nous avons rencontrées, sœurs, frères, élèves, parents, ont partagé, certains, leur papa ont connu le Père Pascal, ont marché avec lui. J'ai entendu parler comment il marchait beaucoup d'une mission à l'autre, et certains, leur père l'ont accompagné. Il soignait les malades, donc j'ai entendu parler de ses soins. Il ouvrait les écoles, donc il aidait dans la construction des bâtiments. C'était vraiment un homme à tout faire et à une vie donnée. On a entendu parler avec admiration et avec ferveur de vouloir garder cette ferveur de foi, comme Père Pascal s'est donné, une vie donnée. On l'a entendu tout le temps. Et son amour pour eux.
Vous parlez de cette ferveur. Est-ce que vous pourriez nous décrire la ferveur que vous avez rencontrée, vous, pendant votre voyage en Éthiopie?
Donc, les récits de la vie de Père Pascal, mais aussi dans les messes. Nous avons assisté à la messe tous les jours. Il y avait, pas uniquement avec les frères, il y avait aussi des laïcs et des religieuses qui venaient de l'extérieur, certains, dans la mission pour la messe le matin. Et cette ferveur, les églises, pour la plupart, il y avait beaucoup, beaucoup de monde, les messes en semaine inclus. Il n'y avait pas juste quelques personnes. Et les chants, les gens, la ferveur dans les chants, qui parfois il y avait un tambour même pour la messe.
Beaucoup de joie aussi, j'imagine.
Beaucoup de joie. Et le temps pour eux de passer, disons, une des célébrations durait 3h30. Mais personne ne s'ennuyait. Pour eux, c'était normal. C'était la grande fête du Saint-Sauveur à côté de Dubourg. Et donc, c'était normal pour eux. Et aussi, on a rencontré dans un petit village un groupe de catéchistes et de catéchumènes, jeunes, adolescents et adultes. Et cette ferveur, et ça, tout le monde était là, heureux d'être ensemble, heureux de nous recevoir. Et c'était d'une beauté de voir ces rencontres, ces rassemblements avec une notion de temps complètement différente du nôtre.
Oui. C'est revigorant hein, quand on est chrétien français, catholique français. Nous avons parlé au début de cette émission de cette proximité du Père Pascal avec la Vierge Marie. Vous avez évoqué, Père Hervé Gagnard, ce personnage du Père Marie-Antoine de Lavaur qui a été le premier à organiser les processions Notre-Dame de Lourdes. Et c'est vrai que le Père Pascal avait aussi cette dévotion envers Notre-Dame de Lourdes. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots?
Alors, d'abord un signe très concret, puisque quand nous avons visité cette mission de Dubot, qui a été la mission principale, hein, la grande mission, enfin celle qui a été peut-être la plus importante et la plus féconde. Donc, cette mission de Dubot, nous avons visité donc l'église paroissiale de cette mission, l'église de Sainte-Marie de la Trinité. Et dans cette église, le père Gabriel Capucin, dont le père avait connu le père Pascal, nous a montré une statue de la Vierge Marie et nous a dit bien cette statue elle vient de France, c'est le père Pascal qui l'a ramenée de Lourdes. Voilà. Donc une alors c'était
et c'est une copie de la Vierge alors qui est dans la grotte de
Massabielle. Non, c'est pas une copie de la Vierge de la grotte de Massabielle. Lui, il l'a présentée comme étant ben voilà, c'est le père Pascal qui l'a amenée, ça c'est sûr et il l'a amenée de Lourdes mais et donc voilà, ça c'est déjà un premier signe et puis après dans ces récits, évidemment, parce que la vie de missionnaire n'est pas une vie de tout repos. Vous êtes à la merci d'un gouverneur, vous êtes à la merci des gens qui veulent vous arnaquer, vous faire payer le terrain que vous voulez acheter trois fois, vous êtes à la merci de beaucoup de choses. Et donc, vous êtes à la merci de la guerre aussi, puisque dans les années 30... 35-36, il y a la guerre en Éthiopie avec le...
Déclarée par l'Italie.
Déclarée par l'Italie. Donc... Il s'en remet souvent à la providence du Seigneur et par l'intercession de la Vierge Marie tout le temps. Il invite ceux qui l'accompagnent à prier la Vierge Marie à chaque fois. Au moment où il rentre dans le Walamo, il s'arrête et il prie la Vierge Marie au moment de rentrer sur cette terre. Voilà, donc il prie tous les jours dans sa lettre d'adieu à ses paroissiens. Il dit combien il prie pour eux en récitant le Saint-Rosaire, enfin voilà. Après, cette spiritualité mariale, elle est du fait du Père Pascal, mais elle est du fait des Capucins.
En fait,
je veux dire que les Capucins sont quand même des religieux assez extraordinaires et dans leur engagement, dans leur vie. Et ils ont cette forme de vie de prière et de piété très simple et qui est marquée notamment par une spiritualité mariale très forte, par le biais des exercices de piété que sont le rosaire, le chapelet, le rosaire, et les chemins de croix. Donc une dévotion très populaire. Et finalement, bien aussi qui s'adapte facilement, qui se marie bien avec la culture locale et la foi populaire telle qu'elle s'exprime aujourd'hui encore, à travers la prière à la Vierge Marie, les dévotions, enfin voilà.
Il explique que parfois il lui arrive de dire 2 à 3 fois le rosaire par jour, voilà. Justement dans ces difficultés dont vous parliez, Père Hervé. Oui. Alors le 12 mai 1944, Abba Pascal écrit une lettre d'adieu qui est très touchante. Oui. Il s'adresse aux chrétiens du Wallamo. Et du Wolamo, pardon, il donne des conseils pour garder la foi malgré l'absence de prêtre. Est-ce que vous auriez quelques phrases qui vous viennent en tête de ces conseils qu'il donne ?
D'abord, il dit qu'il les aime. Donc, oui. Tout simplement, on est frappé par parce qu'on a une image peut-être de cette époque où il y a une certaine pudeur dans l'expression des sentiments. Et lui, il dit qu'il aime combien il aime ses paroissiens. Donc, ce qui me frappe, c'est qu'il leur recommande de s'enraciner justement dans la prière pour être fidèle à leur foi, de réciter chaque jour le rosaire. Il les invite à prier beaucoup. Comme s'il n'y avait. Bon, là, sa dernière lettre, il est heureux de savoir qu'un prêtre va venir finalement. Mais il dit, mais vous savez, vous pouvez être chrétien alors même qu'il n'y a pas de prêtre. Donc, et pour ça, c'est très simple. Continuez à prier tous les jours et à réciter votre rosaire tous les jours et vous resterez fidèle à votre foi.
Quoi. Et oui, et voilà. Il a cette belle phrase. Il dit, je vous en prie, mes enfants, prenez courage. Dieu ne se sépare pas de vous. Il ne vous abandonne pas. Il marche toujours avec vous et vous protège. Voilà. C'est plein d'enseignements pour notre Église aujourd'hui, je trouve, cette façon que le Père Pascal a de rassurer, de donner confiance à ses ouailles. Et puis même quand il n'y a pas forcément de prêtre, on pense dans nos campagnes, quand il n'y a pas de messe dans les petites églises tous les dimanches, ben voilà, en restant fidèle à la prière, en restant fidèle au rosaire, on ne cesse pas d'être chrétien.
Tout à fait. Et puis ce qui est... Aujourd'hui, moi, ce qui me frappe, c'est l'ardeur apostolique qu'ils ont. Ils ont vraiment cette ardeur à, comme il dit, implanter le royaume de Dieu sur cette terre. Ils sont vraiment dans une grande confiance, sur leur mission qui leur est confiée, quoi. Mmh. Ils sont habités par cette confiance, mais ce qui n'empêche pas les difficultés, même les fragilités. Puisque c'est quand même toujours dans un contexte de fragilité où ils savent pas d'incertitude vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis de la politique locale, enfin voilà, ils sont dans une grande incertitude et en même temps pleine confiance, enracinés dans leur dans cette fougue, de ce désir de d'annoncer l'évangile. C'est extraordinaire.
Barbara de Miguel, qu'est-ce que vous avez retiré de ce voyage, peut-être en tant que disciple missionnaire?
Nous avons fait une présentation à Luchon avec le père Hervé Guignard le mois de février. Et donc, j'ai pu creuser certaines choses que je n'avais pas encore réfléchi. Et à la fin de notre présentation, j'ai lancé un appel. Moi, c'est l'esprit, c'est à travers moi. Justement, que le père Pascal nous inspire dans notre rôle de missionnaire chez nous. On n'a pas besoin d'aller loin. Il nous enseigne beaucoup de choses, son inventivité, son courage. Il ne se décourage jamais, sa confiance totale, son abandon. Et d'une manière simple, de répondre aux besoins de ceux qui sont autour de nous, d'évangéliser parfois même sans parole, par nos actions. Ce que Père Pascal a fait tant et tant d'œuvres concrètes avec ses mains pour aider le peuple éthiopien. Il est vraiment un modèle pour nous. Et je veux dire, encore plus quelque part pour notre paroisse de Luchon et notre diocèse, parce qu'il vient de chez nous. Il peut nous parler d'une manière très, très forte de notre rôle de missionnaire et de cet amour de Dieu qui compte plus que tout.
Voilà, une figure à découvrir et à approfondir, cette figure du père Pascal, appelé Abba Pascal en Éthiopie. Merci Barbara de Miguel et Père Hervé Guignard de nous avoir présenté cette belle figure qui a quand même réussi à évangéliser 3 grandes provinces du sud de l'Éthiopie. Cette émission Vivante Église est disponible en podcast sur radioprésence.com et vous pouvez aussi la télécharger, la diffuser à vos réseaux. Ce sera aussi un moyen d'évangéliser. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h. Merci à vous deux.
Merci.
Merci.